Donc l'an dernier, j'avais présenté le dispositif Démo Ami. Je vais en reparler aujourd'hui. Et dans ce dispositif, il y a entre autres un temps d'échange oraux que j'ai appelé discussion lexicale et justement qui a pour objectif, qui vise in fine le réemploi lexical. Donc juste pour introduire mon propos, trois éléments qui sont importants concernant la compétence lexicale. Le fait, bien sûr, qu'il s'agisse d'accroître le lexique disponible, ça semble un petit peu une évidence, c'est-à-dire augmenter le stock lexical, le stock de mots connus par les élèves. Donc ça, on le retrouve bien dans les programmes, hein, accroissement, structuration. D'ailleurs, c'est des termes qui reviennent tels quels, hein, dans les programmes pour l'école. Donc une question de connaissance, de masse de connaissances disponibles. Une question d'organisation aussi. Le lexique est structuré, il est organisé, catégorisé avec un S, hein, on le verra tout à l'heure. On retrouve d'ailleurs assez bien dans la mémoire sémantique et lexicale des éléments de structuration du lexique quand on l'aborde du point de vue de la linguistique. Et le fait que acquérir des mots nouveaux, c'est aussi procéder à des réorganisations de son propre lexique, des réaménagements en quelque sorte. Et ça, je pense que c'est vraiment important. On a entendu parler de plurilinguisme, hein, notamment aussi quand il s'agit également de faire des liens avec des mots qu'on connaît dans d'autres langues, dans d'autres contextes. Et puis, il y a une autre question qui est intéressante et assez souvent peu explorée, et puis de fait assez peu travaillée en classe, c'est la question de l'agilité et le fait que le locuteur ou le scripteur ou le compreneur pourra voyager dans son lexique, s'y promener dans son propre lexique mémorisé. Pour comprendre, pour dire de manière assez précise ce qu'il souhaite dire. Donc ces questions d'agilité, voilà, elles rejoignent celles d'habileté, hein, comment je vais me promener dans mon lexique, celles des stratégies, qu'est-ce que je vais choisir de faire dans ce lexique-là pour arriver à comprendre, à réemployer le lexique. Et notamment, bien sûr, celle de l'inférence qu'on retrouve aussi assez souvent dans les questions de lecture, mais qui n'est pas qu'une question de lecture. Voilà, donc on va essayer de garder en tête un peu ces éléments de définition de la compétence lexicale. Et puis, ce que je vous propose, c'est travailler un peu en trois temps, essayer de voir d'abord, revenir un peu sur le fonctionnement du système lexical et les liens avec des éléments de mémorisation. À partir de là, voir, faire un focus un peu sur ces discussions. Qu'est-ce que c'est une discussion lexicale? En quoi ça peut être intéressant? Comment on peut la mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'enseignant de faire avant, pendant, après? Et puis vous proposer un peu des exemples à ce moment-là. Voilà, dans le dispositif des mots amis, à quel moment intervient cette discussion lexicale? À quoi elle sert? Et puis on en verra cet après-midi des exemples en vidéo. Le fonctionnement du système lexical, donc deux points, hein, les relations lexicales et la question de la mémoire. D'abord, on dit bien système. Donc, le lexique fait système. Alors, je vous ai mis ici deux définitions. Une qui est très linguistique, hein, qui est une définition de Saussure, hein, un ensemble d'éléments dépendant les uns des autres pour former un tout organisé. Donc ça, je crois que quand on est enseignant et formateur, c'est important parce que ça met en question certaines des difficultés que vous avez relevées, c'est-à-dire apprendre des mots isolés. Alors, les listes de mots, c'est autre chose. Ça dépend comment elles sont abordées, on y reviendra. Mais on peut rarement dire que dans une liste de mots, les mots ne sont pas mis en relation les uns avec les autres. Bon. Ça dépend ce qu'on en fait et comment on la constitue, on y reviendra. Donc la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un ne résulte que de la présence simultanée des autres. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant, très important du point de vue des stratégies, quoi. La présence simultanée des autres. et puis une définition mathématique, un système de relations, voilà, un ensemble de relations qui doivent être satisfaites simultanément. Donc voilà, le lexique et les mots ne vont pouvoir fonctionner que les uns par rapport aux autres. Donc l'enjeu didactique, je pense, quand on est formateur, c'est justement de permettre aux enseignants de proposer des dispositifs ou des outils, on y reviendra, pour l'instant moi, c'est plutôt un dispositif, qui favorise justement la compréhension et la mobilisation du système par les élèves. Voilà. Donc essayer de proposer des choses, des situations dans lesquelles le lexique ferait système. Donc ce système, il est sous-tendu par trois types de relations importantes, hein, les relations d'ordre sémantique, morphologique et syntagmatique. Alors on va voir. Donc les relations d'ordre sémantique, c'est Van Kommel-Becke qui a publié en 2000 un ouvrage intéressant, Enseigner le vocabulaire, je crois, tout simplement, c'est le titre, et qui dit que la dimension sémantique du lexique, c'est un petit peu la clé de voûte, et je trouve que c'est intéressant, intéressant de l'apercevoir comme ça. Alors ici, je vous en ai mis deux exemples de mise en œuvre, de résultats de la mise en œuvre de la mobilisation de cette dimension sémantique. Une grille sémique que j'ai extraite d'un ouvrage que j'ai publié en 2021, mais qu'on retrouve aussi dans certains manuels, hein, où on retrouve des termes qui sont mis en relation les uns par rapport avec les autres. Donc ici, on a fauteuil, chaise, tabouret, et puis certaines caractéristiques de chacun de ces objets. Et puis, je vous ai mis à droite des listes, hein, qui sont extraites du site ApprentiLang que les collègues utilisent assez souvent en classe aussi. Donc là aussi, on a des listes de mots qui ne sont pas réunis par hasard. Hein, le thème de la mère, donc c'était une liste pour la maternelle ici. Voilà, donc une appréhension du lexique qui est intéressante et qui n'est pas à rejeter. Sauf si on aborde le lexique uniquement par ce biais sémantique et que les mots deviennent des étiquettes. Hein. C'est un petit peu le problème de la grille sémique, c'est-à-dire qu'on fait la relation entre le mot et la chose. Or, les mots ne servent pas qu'à étiqueter le monde. Hein. Et c'est une des difficultés, je pense, cet accès à l'abstraction pour certains élèves et certains niveaux de classe. Par exemple... On peut aussi faire le lien entre fauteuil, chaise, tabouret, à un dossier, à des bras, n'en a pas, avec des constructions syntaxiques. Hein. On s'assied sur une chaise, on s'assied dans un fauteuil, on s'allonge sur le canapé. Donc on va mettre en relation les noms avec certains verbes, avec certaines prépositions et ces éléments seront en relation simultanée les uns avec les autres, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc les relations sémantiques qu'on retrouve et qu'on retrouve mobilisées par les collègues, qu'on retrouve fréquemment autour des thèmes, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les mobiliser pour permettre justement d'aller un peu plus loin que cet étiquetage du monde. Les relations morphologiques, donc... effectivement, c'est souvent ce qui se passe. Alors ici, je vous ai mis un extrait d'un exercice qui est proposé aux élèves, hein, sur les fameuses familles de mots. Voilà, donc ici on est dans la question des préfixes et des suffixes, enfin ici c'est plutôt la suffixation d'ailleurs, mais qu'on retrouve aussi dans l'orthographe lexicale. Hein. Donc moi il me semble que c'est pas non plus une approche à évacuer, hein, parce que elle va dire aussi des choses sur les mots, sur la compréhension qu'on peut en faire, sur l'organisation du lexique. En revanche, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de sortir aussi d'une approche qui serait uniquement centrée sur la question de la construction du lexique et de l'orthographe lexicale, pour aller peut-être la mettre en lien avec les relations sémantiques, par exemple. Ou bien les relations syntaxiques. Hein, j'aimais bien l'exemple de tombeur, qui est un dérivé du verbe tomber. Quand on pense au sens premier de tomber, on pense plutôt si on va chercher un synonyme chouard, mais un tombeur, c'est pas quelqu'un qui tombe. Voilà. Donc, les questions de morphologie et les questions de sémantique et de contexte sont liées. Et puis, il y a une autre dimension qui est alors assez peu explorée dans le cadre des apprentissages lexicaux. C'est ce qu'on appelle les relations syntagmatiques. Donc, alors, je vous ai fait un petit schéma ici pour expliquer. Donc, vous avez l'axe vertical qui est l'axe des paradigmes et l'axe horizontal qui est l'axe des syntagmes. Donc, l'axe des paradigmes, c'est l'axe des remplacements, des catégories. C'est souvent celui qu'on mobilise dans les opérations de commutation. Et puis, l'axe des syntagmes, c'est l'axe de la combinaison. Et je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que ces axes-là, ils sont interdépendants. Donc ici, vous avez l'exemple de la phrase « ça sent le café grillé ». Donc ça sent le café grillé, on peut jouer sur l'axe des paradigmes et utiliser la synonymie en disant « ça sent le marron grillé ». Ça sent le marron grillé, c'est cohérent, on peut continuer les remplacements, ça embaume le café torréfié, si on aime bien cette odeur. On continue, on joue toujours sur les paradigmes, mais... Le marron torréfié, ça ne marche pas tellement. Ça ne marche pas tellement parce que torréfié, c'est un verbe qu'on emploie principalement pour des fèves. Voilà. Et donc, vous voyez que les choix qu'on va faire sur les catégories, les synonymes entre eux, sont dépendants des choix qu'on va faire aussi entre les verbes et les noms qu'on va retrouver autour, les choix au niveau des syntagmes, le syntagme nominal, le syntagme verbal, c'est le groupe nominal ou le groupe verbal. Alors c'est une approche intéressante parce que, comme le disent Capo et Roubaud, elle permet de dépasser un peu les frontières du mot, d'aller un peu au-delà du mot et de considérer le syntagme dans lequel il s'insère, il se construit, et même plus parfois que le syntagme dans lequel il construit, mais en tout cas cette dimension-là. Et puis cette dimension, vous voyez, elle interroge le fonctionnement du système, parce que si on reprend l'exemple de tombeur, si on construit une phrase avec tombeur, dans cette phrase-là, le sens de choir, il faudra qu'on l'explicite. Alors il y a quelque chose qui choir, bien sûr, mais c'est juste pas celui qui tombe. Alors, en didactique, il y a encore assez peu de propositions qui concernent la mobilisation de la dimension syntagmatique du lexique dans l'enseignement et les apprentissages. C'est un peu l'objet du dispositif que je vais vous proposer. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le texte. On a vu des questions que vous vous posez là, sur le fait, est-ce qu'on part du texte ? On peut partir du texte pour travailler les mots du texte, expliciter, expliquer. C'est intéressant, mais c'est pas tout à fait la même échelle. C'est pas tout à fait la même échelle quand on est à l'échelle du syntagme et quand on est à l'échelle du texte. Donc voilà, donc on se rappelle que les connaissances peut-être dont on a besoin, c'est considérer le lexique comme système avec au moins ces trois dimensions-là, sémantique, morphologique et syntagmatique. Ensuite, on a la question de la mémoire qui revient beaucoup dans les... dans celle du réemploi, bien sûr, dans celle du réemploi. Alors, outre le fait que le lexique, qu'un des objectifs, ce soit de rendre actif un lexique passif, vous savez que, voilà, on a dans nos lexiques disponibles un lexique qui on dit passif, qui est un lexique qu'on est capable de mobiliser aussi en compréhension, qui n'est pas un lexique passif, c'est peut-être un peu un abus de langage, il ne l'est peut-être pas complètement, parce qu'on peut très bien mobiliser ces termes-là en compréhension texte, mais dont l'objectif serait qu'ils deviennent actifs, c'est-à-dire qu'on soit capable de le mobiliser soi-même en situation de production orale ou écrite. Alors, pour ça, il y a deux grands types de mémoire, on dit, dans ce qui, dans les acquisitions lexicales qui interviennent. La mémoire lexicale et la mémoire sémantique. Donc la mémoire lexicale, Liori, donc je vous ai mis deux références ici, Alain Liori, Isabelle Côté et ses collègues. Alors la mémoire lexicale, Liori dit, c'est la carrosserie des mots. Donc, elle va stocker plutôt la forme des mots, autant la forme écrite que la forme orale. Alors moi, je trouve que ça, c'est intéressant pour l'enseignement. Donc, les formes écrites, hein, on est d'accord, ce sont des synthèses de formes. C'est finalement, c'est ce qui rejoint la mémoire orthographique qu'on retrouve à d'autres moments, hein, dans les apprentissages à l'école primaire. Et alors, Lurie nous dit finalement, il y a une relation assez étroite entre la forme écrite et la mémoire à court terme. Et c'était intéressant, ils ont fait une expérience avec ses collègues, et notamment, alors, plusieurs panels d'individus, hein, étaient en contact avec un documentaire, donc un documentaire écrit, un documentaire vidéo, un documentaire vidéo sans sous-titres, avec sous-titres, enfin différentes variables avaient été mobilisées. Et il s'avérait que le groupe dans lequel finalement on n'avait aucune forme écrite était un groupe qui avait eu du mal à mémoriser les informations rendues par le documentaire. Bon, je vous invite je vous proposerai les articles, hein, en bibliographie. Donc il y a quand même un lien entre la forme écrite et la mémoire à court terme. Donc c'est pas inutile de voir le mot écrit. Bon, jusqu'à présent, rien de très très nouveau. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'importance de la forme orale et notamment la question de la vocalisation. La vocalisation, c'est ce qu'on appelle aussi la boucle phonologique, hein, en linguistique. C'est cette auto-répétition qu'on fait soi-même aussi quand on est confronté à des apprentissages en langue seconde. Souvent, on se répète à soi-même les mots. Voilà. Et cette vocalisation, cette auto-répétition, elle participe de la mémorisation des mots nouveaux. Donc c'est intéressant ça pour l'école, parce que alors à l'école maternelle en général on y pense parce que on est bien obligé d'en passer par la langue orale, je dirais. À l'école primaire parfois on y pense moins. Voilà, et au collège on y pense encore moins. Alors que voilà, ça peut être un des éléments qui favorise la mémorisation, la rétention en mémoire des mots nouveaux avec lesquels on est en contact. Et puis, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est la relation entre la mémoire séquentielle des mots entendus et la mémoire à court terme. Hein, ils avaient fait une expérience sur la répétition de séquences de mots. Hein, la mémoire séquentielle, c'est ça, la répétition de d'une séquence de mots. Donc un rappel dans l'ordre de présentation favorable à la mémorisation à court terme. Alors, de fait, ça peut faire dire aux enseignants, vous voyez les listes, selon comment vous les construisez, selon ce que vous voulez en faire, elles ne sont peut-être pas complètement à proscrire, mais elles sont peut-être à penser avec des objectifs qui sont ceux-là. Hein. Peut-être que ça ne sert à rien en soi de mettre des mots les uns à côté des autres sans réfléchir leur organisation, les liens qu'ils peuvent entretenir entre eux pour être mémorisés, etc. Donc la mémoire lexicale, mais alors ce qui nous intéresse particulièrement, nous, pour une rétention à long terme, c'est la mémoire sémantique. Donc la mémoire sémantique, c'est en général à celle-là qu'on fait référence quand on parle de retenir et mémoriser les mots, les réemployer, etc. C'est la mémoire qui stocke les sens et les concepts des mots. Alors il y a trois éléments qui sont importants, je pense, dans l'enseignement, dans la construction de cette mémoire sémantique. Donc l'effet de concrétude, c'est-à-dire que Côté et ses collègues ont remarqué que les mots qui étaient de sens concret et pour lesquels une image était plus directement mobilisable étaient plus facilement mémorisés que les mots présentaient pas ce sens concret et pour lesquels montrer une image était plus difficile. Donc eux, leur exemple, c'est leurs exemples, ça, hein, à Côté et ses collègues, chien versus fidélité. Ben oui, ça bien sûr, hein, on sait bien que, et c'est bien un des écueils d'ailleurs dans l'utilisation de l'image pour faire comprendre les mots, c'est que les mots de sens abstrait ne sont pas toujours faciles à imager. Donc il va falloir trouver d'autres moyens pour se représenter les sens et les concepts qu'il mobilise. Ensuite, on a deux éléments d'organisation de cette mémoire sémantique, en catégories et en associations. Donc les catégories, c'est celles qu'on rencontre souvent, finalement, même dans les fameuses listes, hein, qu'on retrouve dans des propositions d'outils, justement. Donc ici, je vous ai mis aussi un exemple, mésange, oiseau et animal. Voilà, on va catégoriser la mésange parmi les oiseaux et parmi les animaux. Donc c'est des grandes catégorisations sémantiques. Et puis, mais c'est intéressant, je trouve, parce que c'est ce qu'on retrouve finalement dans les fameuses corolles, souvent les caractéristiques. Et vous avez un deuxième type d'organisation de la mémoire, c'est la mémoire sémantique par association. Donc, d'une part, on va faire des grandes catégories, mais d'autre part, on va associer des termes entre eux. Alors ici, je vous ai mis mésange, volet, aile, ou abeille, miel et butiné. Et vous voyez que c'est intéressant parce que on retrouve un peu déjà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les éléments de sens et déjà les éléments de l'ordre de la syntaxe ou du syntagme. Une mésange a des ailes pour voler. Hein, et on vole grâce à ses ailes. Enfin bon, on a plusieurs façons de le verbaliser, mais en tout cas, on va mobiliser ces termes-là du côté de la syntaxe. Donc catégorisation et association, ça va être intéressant. Et justement, quand on acquiert des mots nouveaux, ce qui se passe, c'est que on réorganise un petit peu tout ça. Peut-être que si on acquiert le mot mésange qu'on n'avait pas ou le mot oiseau qu'on n'avait pas, on va procéder à une réorganisation et de même pour les autres termes. Donc ça, c'est intéressant, cette réorganisation. Et un des enjeux des apprentissages lexicaux, c'est de pouvoir permettre cette réorganisation. Alors pour ça, on a un élément qui est intéressant et qui est... un des points d'appui du dispositif des mots amis, c'est ce que j'appelle le cotexte. Alors, les mots amis, ici, je vous en ai mis un exemple, c'est le cotexte, hein, on peut les prendre comme synonymes. Donc, je vous ai repris le terme volé, puisque c'était celui qu'on avait précédemment pour la question de la mésange. Et donc, volé, il a des amis. Les amis de volé seront, pour ceux qu'on a vus, mésange et oiseau, peut-être s'opposer, hein, selon la syntaxe, selon le texte, hein, selon le contexte qu'on mobilise. Mais volé pourra avoir aussi comme ami secours, voler au secours de quelqu'un. Vous voyez, on a, en allant chercher les mots qu'on emploie souvent autour, qu'on retrouve, hein, qui sont des mots amis, entendre une mouche voler. Et puis un autre sens, qui est un sens 2 dans les dictionnaires, cambrioleur, bijoux, argent ou d'autres. Hein, ce n'est pas exhaustif ici, hein, les mots amis. Voilà. Et donc vous voyez qu'en allant chercher les mots qu'on retrouve autour du terme volé, on va apprendre d'autres façons de dire et on va accéder au sens abstrait. Voler au secours de quelqu'un. Alors il y a quelque chose, il reste un sème, on dit, reste quelque chose de volé, un petit quelque chose, on va dire, de volé. Et comme, entendre une mouche voler, encore là, on l'imagine bien voler. Encore faut-il comprendre ce que l'expression figée signifie. Donc on va aller chercher autour de voler les termes qu'on va employer en même temps, qu'on va combiner à voler, c'est ça la combinatoire lexicale, et qui vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux l'employer. La combinatoire lexicale, on le retrouve dans le dernier document, le guide pour enseigner la grammaire du CP à la 6e. Hein, c'est un terme qu'on retrouve, combinatoire lexicale, mais avec encore peu de recommandations quant aux stratégies pour la mobiliser. Alors vous voyez, quand on va chercher les mots amis comme ça autour du terme, eh bien on combine à la fois catégorisation et association, parce qu'on a bien les questions de catégorie, mais on va aussi associer les mots entre eux. On favorise aussi les acquisitions des verbes, hein, parce que C'est vrai que dans les acquisitions, tout du moins à l'école maternelle, les verbes, hein, le corpus de verbes acquis est moindre, hein, par rapport au corpus de noms. On commence d'abord à acquérir les noms, et puis après on acquiert des verbes. Hein. Alors au bout de, à peu près, au bout de, à l'âge de 6 ans, on a une masse lexicale critique suffisante pour acquérir beaucoup de verbes. Et puis les deux classes s'équilibrent. Mais c'est vrai qu'à l'école maternelle, c'est intéressant aussi parce que ça oblige à mobiliser le verbe, hein, d'aller chercher les mots amis. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi une stratégie. Si je ne comprends pas très bien, ben, je peux aller voir juste les mots autour. Alors lesquels, on va voir, hein, ici, les noms et les verbes. Alors on va peut-être pas dire nom et verbe à l'école maternelle, on va voir comment on peut s'y prendre. Mais en revanche, on peut le dire au cycle 3, on peut le dire en 6e. Regarde les noms et les verbes qui sont autour. Et puis on peut même faire quelques listes qui vont bien avec voler. Hein, des listes de noms qui vont bien, des listes de verbes qui vont bien, et une formule, notamment une formule figée pour entendre les mouches voler. Donc on va mobiliser ces mémoires, hein, qui sont liées à la connaissance et aux procédures, et qui permettent de proposer des stratégies aux élèves. Ben voler, je sais que ça fonctionne bien avec tel mot et tel mot, je peux l'employer avec tel mot et tel mot. Voler, je sais que ça va bien avec tel mot et tel mot. Tiens, là, je le connais pas bien. Je vais regarder autour ce qui peut m'aider à comprendre. Donc, si on fait un petit peu la synthèse pour aller du côté de la discussion et du dispositif, eh bien, on se rend compte qu'une des priorités, quand même, c'est de considérer sens, forme, éco-texte, parce qu'on voit bien que du point de vue de la mémoire, c'est ce qui va permettre de construire finalement son lexique actif ou d'activer son lexique passif. Et c'est aussi ce qui va donner à l'enseignement des entrées finalement dans le lexique. Alors, néanmoins, dans ce qu'on vient de dire, on a parlé de listes, hein. Alors, je crois qu'on peut interroger l'intérêt des listes de mots. On peut en constituer des listes. On a vu des listes sémantiques, on a vu des catégories. Comment on les constitue? Est-ce que ces listes sont composées de noms et de verbes, ou plus, d'adjectifs? Est-ce qu'elles comportent des mots concrets, des mots abstraits, puisqu'on a vu que c'était une des questions qu'il fallait se poser? Qu'est-ce qu'on en fait de ces listes? Est-ce qu'on les laisse comme ça affichées et puis qu'elles sont comme une sorte de dictionnaire de mots de la classe dont on doit se souvenir? Est-ce qu'on les mobilise en réception ou en production? Est-ce que dans ces listes, on peut associer des mots? Hein, est-ce qu'on a des mots amis les uns des autres qui vont permettre de proposer aux élèves des stratégies pour les utiliser, pour les employer? J'ai tel mot et tel mot dans mes deux listes. Là, je sais que je peux les employer ensemble et que ça fait un effet sur le récepteur de mon message. Donc, bah, j'essaye. Voilà. Et puis, à travers la question de la mémoire, bah, se pose bien sûr celle du temps. Hein, je vous mets ici ménager de nombreuses rencontres avec les mots. C'est vrai que la dimension temporelle, en ce qui concerne les acquisitions lexicales, bah, on est bien obligé de la prendre en compte. On ne peut pas ne pas y penser. Hein. Mais d'ailleurs, je crois que c'est intéressant parce que je me rappelle avoir mis en œuvre un dispositif autour des verbes de parole. On avait choisi avec les enseignants des verbes de parole à enseigner dans leur classe. Et puis finalement, à la fin du dispositif, dans les post-tests, les élèves mobilisaient, oui, les mots qui avaient été enseignés, mais pas tous, plus ou moins. En revanche, ce qui était intéressant, c'est qu'ils mobilisaient plusieurs verbes de parole qui n'étaient pas ceux qu'ils avaient utilisés au tout début lors des prétextes. Et donc, d'une certaine façon, ils réemployaient un lexique passif. C'était peut-être pas tout à fait celui qui avait été enseigné, mais c'est quand même le fait d'avoir enseigné ces verbes-là sous forme de chant avait quand même activé quelque chose. Donc, il y avait un réemploi, sauf que c'était un réemploi de mots que l'enseignant, peut-être, ne savait pas que ses élèves posséder un lexique passif. Donc il y a tout ça, c'est tout des questions qui se posent, je crois, que quand on enseigne et quand on est en contact avec les enseignants du point de vue des questions d'apprentissage lexicaux. Ensuite, on a dit, ce qui est intéressant, c'est de mobiliser les échanges entre pairs, puisque la question de la discussion va se poser, puisqu'on a vu que la forme orale était intéressante, que c'était intéressant de se l'approprier vocalement, même pas forcément par la boucle phonologique et en discutant, et que donc, on va essayer de parler ces mots. Alors, comment on fait ? Bon, déjà, on va considérer, c'est la Ferrière qui propose cette définition, c'est une enseignante-chercheuse québécoise qui a beaucoup travaillé sur, notamment, la classe à distance, qui dit que la classe, on considère aller la classe, dans ce cadre-là, hein, comme une communauté d'apprentissage. Donc, les échanges entre pairs, ils vont être... piloté, si on peut dire, par deux éléments qui sont importants. D'une part, la tâche qu'on demande aux élèves, une tâche discursive précise, qu'est-ce qu'ils ont à faire, et l'enseignant, qu'est-ce qu'il a à faire dans le cadre de ces discussions lexicales. On verra que, de fait, avoir connaissance de l'organisation du système lexical, ça va être nécessaire pour l'enseignant pour étayer et puis soutenir la réflexion de ses élèves. Et donc, bien sûr, là, les discussions, les échanges entre pairs dont je vais vous parler aujourd'hui, ils sont des échanges qui favorisent la co-construction de la pensée. Donc, on est dans les propositions de Chaban et Bucheton que vous devez connaître. Donc, alors, voilà, une tâche discursive, c'est intéressant, l'étayage, parce que vous l'avez mentionné vous-même, on le voit bien dans les classes parfois qu'il y a des échanges sur les mots. Hein. Mais voilà, la discussion lexicale, elle essaye d'aller justement plus loin que ces échanges qui sont parfois incidents et qui sont intéressants quand même. Hein, on ne va pas quand même ne pas répondre à un élève qui nous demande qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel terme. Ce qui est important aussi, c'est les traces qu'on va laisser. À l'issue de ces échanges, il s'agit qu'il y ait des traces pour expliquer ce que ça nous a apporté de discuter du sens des mots. Qu'est-ce que ça nous a appris ? À quoi ça nous sert ? Hein ? Donc, une discussion qui va être finalisée vers un objectif précis avec des traces. Alors, vous avez des autrices qui ont remarqué qu'elles existaient, ces discussions en classe, mais que souvent, elles étaient justement informelles et pas forcément organisées et non forcément suivies de traces. Donc, le concept de discussion, c'est un concept qui a été proposé par Catherine Gerbrat-Orecchioni, hein, qui est une linguiste qui a beaucoup travaillé sur les échanges. Et donc, pour nous, ce sera des échanges argumentatifs. Donc, bien sûr, dans le cadre des discussions lexicales, ce qu'on va chercher à permettre aux élèves de produire, c'est des arguments d'ordre linguistique. Hein, c'est ce qu'on veut essayer de mobiliser dans les discussions lexicales. Et donc, comme le dit Gerbrat-Orecchioni, ici aussi, hein, les participants, donc les élèves, ils sont envisagés comme un ensemble de savoirs. Les élèves, je dirais, et même l'enseignant aussi, puisque l'enseignant, dans son étayage, va bien mobiliser ses savoirs pour permettre aux élèves de construire les leurs. C'est une activité méta, cette discussion lexicale, méta-linguistique, voire méta-lexicale, hein, réfléchir avec la langue sur la langue, réfléchir avec le lexique sur le lexique, c'est intéressant. C'est peut-être le moment où on va pouvoir s'extraire un peu des séances qui sont proposées via les manuels avec les notions préfixes, suffixes, pour les familles de mots, les synonymes, les antonymes. Peut-être que c'est le moment où on va pouvoir mobiliser justement ce métalangage et ce qu'on en a compris pour argumenter. Donc l'objectif de la discussion lexicale, c'est de permettre aux élèves d'approfondir la connaissance des mots. Donc compte tenu de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, Eh bien, la classe, ce sera donc une communauté d'apprentissage lexicaux. Donc, on va considérer les élèves comme un ensemble de savoirs lexicaux à partager et l'enseignant ou l'enseignante aussi avec ses savoirs. Donc, on s'extrait un peu de ce que vous disiez, c'est-à-dire de la pensée selon laquelle les élèves n'ont pas de vocabulaire. On essaye de s'en extraire et on se dit, puisqu'on sait que les acquisitions lexicales, elles opèrent justement par un réaménagement hein, de cette mémoire sémantique hein, au fur et à mesure, ben, pour réaménager, il faut bien déjà avoir fait un peu émerger ce qui était là, sinon on ne pourra pas le réorganiser. Donc on se dit, ben, on va déjà essayer de faire émerger ce qui est là et compter sur ces connaissances-là et les développer, bien sûr. Hein, l'objectif, c'est bien de les développer. Hein, mais c'est Sylvie Plane qui dit qu'on a assez peu de recherches, en fait, qui expriment, justement, cette pauvreté de vocabulaire des élèves. Hein, voilà, ce serait intéressant, peut-être que c'est un travail à venir. Est-ce que c'est un ressenti ? Parce que le vocabulaire, le lexique, c'est très subjectif, on a chacun le sien. Et est-ce que c'est parce que, selon les générations, les vocabulaires ne sont pas les mêmes ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les mêmes, on ne dispose pas du même lexique que nos élèves ou que nos étudiants, ou que nos collègues, qu'on trouve que les uns ont un lexique pauvre par rapport à nous, parce que ce n'est pas le nôtre ? Enfin bon, c'est toutes sortes de questions qui se posent, je pense. Donc, on va considérer les élèves comme... un ensemble de savoirs lexicaux à partager, à partir desquels on va travailler pour les développer. La tâche discursive, ça sera un problème lexical à partir de phrases-problèmes. Je vais vous en montrer des exemples hein, tout à l'heure. Donc on pose un problème, on dit avec tel mot ami. Alors peut-être à ce moment-là, on n'amènera pas encore ce métalangage, on y reviendra. Mais voilà, quel est ici le sens de tel mot ? Il va falloir essayer d'en discuter et d'argumenter, bien sûr, en mobilisant ses connaissances lexicales ou linguistiques. Donc la discussion, elle sollicite des arguments qui vont mobiliser les relations lexicales, d'où l'intérêt pour l'enseignant de bien les connaître, hein, pour pouvoir les solliciter au fur et à mesure, les valoriser quand certaines sont sollicitées. Et c'est à partir de ces arguments lexicaux hein, qui sont dépendants des relations lexicales, qu'on va pouvoir partager, expliquer, justifier sa propre interprétation des mots étudiés. À l'issue des discussions lexicales, il y a une trace qui vient montrer ce qui ressort de ces échanges. Alors, une trace hein, qui est un consensus quant au sens. Ben, on a discuté de ce sens-là pour nous, dans la classe, voler, ça voudra dire ça, ça et ça. Ça voudra dire peut-être se déplacer avec ses ailes. Ça pourra peut-être vouloir dire aller au secours de quelqu'un. Voilà, on pourra le paraphraser de la sorte. Et un consensus quant aux stratégies. C'est-à-dire, si je ne le comprends pas, ce mot-là, qu'est-ce que je vais chercher autour ? Si je ne comprends pas voler, qu'est-ce que je vais aller chercher, autour ? Voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'on va à la fois approfondir ses connaissances et à la fois expliciter des stratégies. Alors du point de vue de la modélisation, il y a beaucoup de choses écrites hein, sur cette diapositive, mais en fait elle synthétise tout ce qu'on vient de dire. Hein, c'est pas... c'est vrai que c'est un peu... Mais vous la trouverez dans un article à paraître. Alors juin 2023, j'ai vérifié. Où on a ce schéma. Donc, ce schéma, oui, il synthétise, hein, c'est une forme de synthèse de ce que je viens de vous expliquer. L'enseignant en amont, ben, sélectionner les mots, ça, on va y revenir avec le dispositif des mots amis, puisque c'est quelque chose qui est ressorti, quel mot on va sélectionner. Et puis, mobiliser lui-même ses connaissances, c'est-à-dire ces mots-là, du point de vue du sens, de la forme et des mots amis, hein, du syntagme, hein, du cotexte, comment il fonctionne dans le lexique. Et maintenant que je sais comment ces mots fonctionnent dans le lexique du point de vue du sens, de la forme et de leur cotexte, bah, je sais un peu comment je vais m'y prendre pour essayer d'étayer les discussions avec mes élèves. Donc, Pendant la discussion, l'enseignant, il a pour rôle de proposer sa tâche discursive et de guider les élèves vers la mobilisation des arguments lexicaux. Et puis, les élèves, de leur côté, mobiliser le sens et mobiliser justement les mots amis afin d'essayer d'expliquer, de désambiguiser, d'interpréter à nouveau les mots avec ce nouveau sens et de pouvoir développer leur stratégie. Donc, vous avez remarqué, j'ai mis du violet parce que rouge et bleu, ça fait violet. Donc, l'étayage de l'enseignant et les discussions des élèves produisent la discussion lexicale. Et donc, le zoom que vous avez, voilà, c'est lié aux relations lexicales, c'est-à-dire solliciter des arguments sur le sens, donc avec des exemples de questions, solliciter des arguments sur la combinaison, avec quelques exemples de questions, et solliciter des arguments sur la forme. Donc, vous voyez, on retrouve les relations lexicales et les éléments de mémorisation dont on a parlé. Alors, le dispositif. Donc, ces discussions lexicales, elles s'insèrent dans un dispositif intitulé le dispositif des mots amis, les mots amis étant, vous l'avez compris, les éléments du cotexte. Donc, au préalable, dans la mise en œuvre du dispositif, il faut choisir des mots. Alors ici, je vous ai mis plusieurs exemples de mots ou de chants qui avaient été choisis avec les enseignants avec lesquels j'ai travaillé, que je remercie d'ailleurs, des enseignants de cycle 3, Marie Montaillier et Laetitia Valadier, des enseignants de maternelle, Bruno Fréjac, Myriam Salah, et tout un groupe d'enseignants de la circonscription de Mauriac dans le Cantal. Voilà, avec beaucoup d'enseignants. Donc, du coup, c'est bien un dispositif, mais qui a été aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Frédéric, testé, retesté de manière multiple par les enseignants de différents niveaux sur différents types de termes. Donc, des exemples de termes qui avaient été choisis par les élèves, donc les verbes de parole, les verbes de soutien. Donc les verbes de parole, on y reviendra. Les verbes de soutien, c'était les enseignants qui avaient émis ce souhait, notamment pour l'école maternelle, parce qu'ils disaient que les élèves ne comprenaient pas toujours justement cette idée d'aider l'autre, de soutenir. Donc se charger de quelqu'un, s'occuper de quelqu'un, supporter quelqu'un. Voilà, c'était un concept qu'ils avaient constaté comme étant source de difficultés du côté de leurs élèves. Donc c'était ça, c'est pour vous expliquer un peu quels sont les critères qui font que les élèves, les enseignants peuvent choisir les mots à étudier. Voilà. On pourra en reparler si vous voulez de cette question du choix. Des verbes d'altération, briser, hanter, ronger. Une collègue qui avait travaillé en lien avec ses séances de PS et donc sur les mots de la natation. Donc on peut choisir 3 à 5 mots d'un chant, mais on peut choisir aussi un chant, on y reviendra, parce que les collègues enseignants utilisent souvent les chants quand même pour entrer dans le lexique. Alors quand on choisit 3 mots d'un chant, on utilise aussi le chant, mais on peut aussi faire émerger le lexique disponible des élèves à propos de tel ou tel thème. Et puis à l'école maternelle, les mots de la peur, donc ici je vous en mets quelques-uns qui avaient émergé lors d'un travail avec un enseignant et que vous retrouvez, que vous avez peut-être vu dans un article qui est paru dans Repères sur le réemploi lexical en grande section sur les mots de la peur. Donc, l'objectif, ça va être d'explorer le sens de ces mots dans des situations diverses afin que, justement, les élèves puissent avoir une connaissance approfondie. Il y a une question de profondeur de connaissance des mots amis. Alors pour ça, on va procéder de manière progressive. On va d'abord mettre en contact les élèves avec ces mots-là, faire émerger ce qu'ils savent déjà. S'ils ne savent rien, ils le disent. Je ne le connais pas, ce mot-là. Très bien, c'est déjà quelque chose pour l'enseignant de savoir que ces élèves ne les connaissent pas, ces mots-là. Ou ce mot-là, hein, si on avait dans marmonner, murmurer, hurler, ben, l'un de ceux qui sera moins connu, vous en doutez, c'est marmonner, parce qu'il est un peu moins fréquent. Donc, faire émerger ce que les élèves savent sur ce sens des mots. Poser un problème pour les faire réfléchir sur ce qu'ils ne savent pas. Et à partir de la discussion, eh bien, produire une trace sur le sens complet, ce qu'on savait, ce qu'on a appris et comment on le sait. Hein, donc le sens qu'on connaissait, le sens qu'on a appris qu'on ne connaissait pas, on approfondit la connaissance des mots et une stratégie, comment on a fait pour le savoir. Alors je vais les préciser ces phases et puis à chaque fois je vais vous donner des exemples. Alors c'est des exemples pour le cycle 3 mais on verra tout à l'heure une mise en œuvre à l'école maternelle. Pour le cycle 3, y compris en 6e, hein, parce que il y avait des mises en œuvre de ce dispositif qui ont été proposées en classe de 6e autour des textes fondateurs, hein, qui sont des textes qui posent parfois un problème hein, aux collègues enseignants en français. Et donc, on avait extrait des textes fondateurs. Alors, c'était plutôt des noms, pour le coup. Autour desquels on avait déployé le dispositif des mots amis. Donc une phase de découverte et d'approfondissement. Donc sur la gauche de la diapositive, est-ce que tu l'as déjà entendu? À quoi ça te fait penser? Donc on mobilise un scénario parce que vous avez remarqué pour verbaliser le sens qui nous est familier d'un mot, on a besoin aussi d'expliquer une situation, la situation dans laquelle on le rencontrerait. Ou les situations dans lesquelles on l'a rencontré. Donc on fait émerger ce scénario lexical pour permettre aux élèves d'activer ce qu'ils ont de disponible. Alors c'est intéressant parce que parfois vous avez des élèves qui disent « Est-ce que tu l'as déjà rencontré ?» Non. Et quel est pour toi le sens de ronger ? Ils proposent un sens quand même, un sens assez pertinent, donc qui montre que sans doute quelque part ils l'ont déjà rencontré, mais qu'ils ne s'en souviennent plus ou qu'ils n'y ont pas fait attention, ou que pour eux c'était peut-être tellement intuitif qu'ils n'ont pas pensé à le dire. Et de là, il y a un premier bilan, un premier consensus. Ben, pour nous, là, les sens premiers de ronger, ce sera ça. Ça, c'est le sens qu'on a trouvé aujourd'hui et tout de suite, et on va l'approfondir avec des phrases problèmes. Donc, pour ronger les phrases problèmes, les castors rongent lentement le tronc de l'arbre. Jusque-là, on avait un sens qui était assez proche de celui qui était mobilisé par les élèves. Les volets métalliques de cette maison, sont rongés par la rouille. Donc une forme passive et puis déjà un autre sens hein, qui glisse vers le sens abstrait du terme ronger. La peur de ne pas réussir ronge Marie. Et Marie écoute les bêtises des autres sans répondre. Elle ronge son frein, expression figée, familière, en attendant son tour. Donc on va vraiment aller vers le sens abstrait en mobilisant les mots qui sont autour. Et donc les discussions lexicales, elles vont avoir lieu sur ces phrases-là, hein, et notamment, bien sûr, vous voyez, sur les phrases qui mobilisent un sens moins courant et abstrait. Et elles donneront lieu au bilan. Un exemple, supporter. Ah oui, c'était pour supporter. Voilà, comme ça, vous avez plusieurs exemples de fiches. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Oui, quand quelqu'un a ras-le-bol de son frère ou de sa sœur. Supporter une douleur, une personne. Donc c'est intéressant parce que on a déjà un sens abstrait qui se dessine. Supporter quelqu'un, une équipe hein, de supporters anglicisme. Supporter une douleur, un poids. Donc déjà ils avaient trouvé beaucoup de choses, hein, encourager, synonyme, les sens que nous avons trouvés à l'issue du premier consensus. Pour supporter à l'issue de la discussion, donc supporter un poids, quelque chose soutenir, supporter la pluie, il la traverse, résister. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'on va mobiliser les mots amis pour essayer d'interpréter le terme de supporter. On va utiliser la synonymie pour expliciter son sens à l'issue de la discussion lexicale. une phase de définition ensuite dans le dispositif des mots amis qui sera finalement la trace écrite à l'issue de la discussion. Donc les élèves ont échangé à propos de ces phrases problèmes. On a abouti à un consensus, on a mobilisé les synonymes, on a mobilisé ses connaissances antérieures, on a mobilisé les mots amis, et on arrive à des sens qui sont finalement une sorte de définition de ranger. Donc entamer, user, abîmer, mais aussi user une chose avec ses dents ou non, la rouille, un peu comme manger, alors c'est les définitions des élèves, hein, mais c'est juste. Et puis user une personne, causer des soucis, se tracasser. Donc c'est intéressant, hein, parce que aller vers la discussion permet d'approfondir le sens des mots et dans la mobilisation des synonymes, accroître. Et voyez, ça recatégorise. On va pouvoir ranger avec les verbes comme se tracasser, qu'on connaissait peut-être pas, mais du coup qu'on connaît aussi, et on va les ranger dans la même catégorie. Donc on approfondit le sens avec à l'issue de ce dispositif et en plus on développe des stratégies. Autour de ronger, voilà les mots amis qu'on a trouvés. Les carottes, le tronc, la rouille, la peur, le souci métallique pour les volets. Si on ne l'a pas, on pouvait le rajouter, attendre lentement, etc. Donc on va aller chercher des mots qui sont des mots de sens, qu'on appelle des mots de sens plein. Donc ici, on avait nom, adjectif, verbe, adverbe, qui vont nous aider à comprendre et qui vont nous aider à employer. Hein, puisque vous avez vu, il y a une question d'association dans la mémoire. Et quand on mémorise un mot, on le mémorise rarement tout seul. On le mémorise dans la catégorie des mots avec lesquels il est catégorisé et en combinaison avec les mots avec lesquels il peut se combiner. Et donc ici, on va bien aller chercher les deux structurations du lexique. Donc voilà ce que ça donnait du point de vue de la fiche élève. Hein, c'était pour un exemple de ce qu'il y avait. Donc là aussi, c'est à nouveau à propos de supporter hein, ce que ça donne la discussion lexicale dans le dispositif des mots amis. Et finalement, dans ce dispositif, ce temps de discussion, il est assez fondamental hein, parce que c'est vraiment là qu'on va aller chercher les connaissances pour les accroître et les approfondir. Donc ici, vous en avez une synthèse donc des semaines ou autres. Hein, ça dépend de la déclinaison calendaire. Elle dépend bien de l'organisation de la classe par les collègues enseignants. Voilà. Mais en tout cas, vous avez bien le moment où apparaît la discussion lexicale, c'est-à-dire qu'on est bien au début, où on va discuter des mots. Et la trace écrite, elle va bien apparaître en troisième séance, au moment où on explicite, où on définit, où on catégorise. Vous vous rappelez, pour nous, le sens, c'était ça et ça. Ben, maintenant, on va le préciser, l'expliciter dans des fiches outils. Donc, les choses sont consignées. Alors, bien sûr, il y a une question de liste. Hein, si on choisit briser, hanter, ronger, puis on peut en prendre d'autres, ici on en avait trois, on a une liste finalement des verbes d'altération. Bien sûr, il y a une liste, mais il y a une liste qui est construite parce qu'elle fait sens. Bien sûr, il y a des questions de catégorie grammaticale, de catégorisation, mais là aussi, ces catégorisations, elles sont mobilisées parce qu'on va pouvoir les employer avec le mot. Il ne s'agit pas de catégoriser pour catégoriser, hein, il s'agit de catégoriser dans un objectif aussi stratégique hein, et de procédure. Voilà, et donc, la discussion, voilà, elle se situe à la fin de cette première séance de vocabulaire et le résultat, finalement, apparaît au cours de la semaine 3, la deuxième séance de vocabulaire. Oui, je vous ai mis enseignement indirect ici. Les collègues avec lesquels j'ai travaillé dans les dispositifs que j'ai mis en œuvre dans les différentes classes ont souhaité que ce temps d'enseignement indirect soit formalisé. Je trouvais que c'était intéressant. C'était un des objectifs aussi de la recherche, et donc prévoir une semaine où eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas enseigner forcément les mots, ces mots-là, mais qu'ils allaient penser à les mobiliser, à lire un livre dans lequel il en était question, à aller soigner les lapins de l'école pour dire qu'on s'en occupe. Voilà. Et donc, on avait un apprentissage incident qui était quand même organisé. Et ça, je trouve que c'est intéressant en formation, dire que cet apprentissage incident, parfois, il est effectivement incident. Et les collègues ne peuvent pas prévoir ce que vont leur demander. Enfin, pas toujours prévoir sur quoi vont porter les questions des élèves, mais parfois, ils peuvent aussi le prévoir, cet apprentissage incident. Donc, des exemples d'arguments, on en verra d'autres tout à l'heure. Donc, le scénario lexical, c'est peut-être son magasin préféré. Alors du coup, comme c'est son magasin préféré, donc on voit l'élève qui fait son scénario et qui imagine Marie qui va dans un magasin. Pourtant, rien ne dit que les lieux, c'est un magasin. Hein. Mais voilà, il se fait son scénario lexical et ça l'aide à construire le sens. Intéressant. Le possédé par la peur, hanté par la peur, pardon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, on va mobiliser terrible voyage et puis on va utiliser les synonymes. Elle est possédée par la peur. Alors moi, je trouve que c'est intéressant. Vous voyez comment les choses se reconstruisent. Hantée par la peur, possédée par la peur. Et on a vraiment toute une construction lexico-syntaxique, en fait, autour de ces termes-là. Alors, manger, donc l'enseignant qui dit, ben, elle demande une explicitation. Mais tu veux dire quoi? Parce que c'est vrai que manger, c'est un petit peu surprenant ici. Et ben, ronger, en fait, il voulait mobiliser ronger. Pour être rongé par la peur, parce qu'on peut être rongé par le doute. Vous en souvenez, là, il y avait les trois mots, hein, brisé, hanté, rongé. Et donc là, c'était vraiment dans la discussion. Voilà, l'élève voulait dire manger, mais manger par la peur, ça ne va pas trop bien quand même. Hein. C'est intéressant d'ailleurs, hein. Ça rejoint notre axe, nos deux axes. Et donc il allait chercher un autre terme. Donc il réemployait un mot, un verbe étudié pour... paraphraser le verbe sur lequel il devait discuter. C'est intéressant, hein, parce que là, pour le coup, il y avait du réemploi. Et c'était parce que le choix avait été déjà un choix d'un champ lexical en particulier. Donc du coup, on peut mobiliser les mots les uns les autres pour parler de ces mots-là. Donc la question de la discussion lexicale dans le dispositif des mots amis, elle implique de s'appuyer sur les connaissances antérieures des élèves, les connaissances lexicales des élèves. Elle implique de proposer de discuter, mais à un certain moment, à un moment clé. C'est une discussion finalisée, organisée, pour résoudre un problème lexical, en sollicitant les relations lexicales, et qui doit aboutir à une trace écrite de synthèse, hein, autant du point de vue de la connaissance que des stratégies. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, in fine, elles permettent d'accroître la connaissance et la compréhension des mots qu'on a étudiés, des mots qu'on a sollicités pour parler des mots à étudier, et puis qu'elles permettent de favoriser la mémorisation et le réemploi, puisqu'on voit que catégorisation, association sont conjointement mobilisées. Ce que je voulais rajouter là pendant que en attendant que vous ayez le temps de prendre des notes sur cette diapo, solliciter les relations lexicales dont les mots amis, c'est vraiment important, hein, solliciter le cotexte, c'est ce qui fait que justement les discussions vont aboutir à la verbalisation d'une stratégie. Ça, c'est la stratégie supplémentaire, alors c'est pas la seule, hein. On peut toujours utiliser le contexte, on peut utiliser toujours la forme, mais en revanche, le mot ami, c'est une stratégie qu'on pense assez peu à utiliser, ou en tout cas à expliciter comme telle, comme stratégie, hein, aller chercher tel ou tel terme. Voilà, et pour terminer, vous avez une auteure, hein, c'est Nicole Delvolvé, qui a écrit un ouvrage qui est intéressant en 2005, « Tous les élèves peuvent apprendre ». Auquel je fais référence, je pense, hein, dans l'ouvrage « Construire la compétence lexicale avec les mots amis », et à partir duquel j'ai fait un transfert entre les processus mentaux prévalents dont elle parle et les conduites lexicales qui vont intervenir dans le cadre du dispositif avec les discussions lexicales. Donc, vous retrouvez les différentes mémoires et à chaque fois, à quel moment dans le dispositif, hein, le scénario, les relations lexicales, les catégorisations, combinaisons, on va mobiliser ces mémoires-là. Alors, la semaine 1, elle est dédiée à trois mots pris ensemble, c'est-à-dire aujourd'hui, on va essayer d'étudier, de mieux connaître, briser, interroger. Voilà, on les étudie ensemble à chaque fois. Donc ça faisait, dans les mises en œuvre, les différentes mises en œuvre qui ont eu lieu dans les classes, ça faisait comme un premier fascicule, explorer les mots, interroger, briser. Et un deuxième, alors fascicule ou des petites fiches, hein, on l'avait fait sous forme de fascicule parce que c'était plus facile à manipuler comme le document allait des enseignants à moi, aux élèves. Et un deuxième fascicule, approfondir la connaissance des verbes, interroger, briser. Donc ils étaient, et ça c'est important parce que les étudier ensemble, c'est ce qui fait qu'on peut mobiliser l'un pour parler de l'autre. Et ça participe aussi du réemploi. Moi j'avais demandé aux enseignants de travailler plutôt sur des verbes, puisque le verbe, c'est Picoche qui dit qu'il souffre de disette à l'école, donc on va essayer de pallier ça. Donc je leur avais demandé de travailler autour de verbes, et après le choix des verbes, il s'est notamment fait en fonction de deux critères, ce sur quoi ils voulaient travailler, ou comme je vous l'ai dit, le problème que ça a posé à leurs élèves, ou bien des verbes qui pouvaient être employés de manière très transversale, comme des verbes de parole, par exemple, qu'on va pouvoir mobiliser de manière très... Alors, transversale, peut-être pas, c'est surtout en lecture, compréhension, mais qu'on va pouvoir mobiliser voilà, à d'autres moments de la... Mais moi, je trouve que c'est difficile, cette question du choix, parce que... Elle est largement liée au texte et aux programmations des collègues. Dans le choix, on peut regarder les listes de fréquences. Donc, il ne faut pas mobiliser quelque chose qui est trop fréquent, parce que les élèves le connaîtront. Pas non plus des verbes qui rencontreront jamais. Donc, il faut essayer d'aller voir entre les deux quels sont les verbes que je vais mobiliser... en lecture, en science, en... Le fond, c'est la polysémie. Et ce qui est intéressant dans le choix, c'est d'aller chercher le sens abstrait. Voyez. Alors après, on peut aider au choix quant au champ, par exemple. Le champ des verbes de parole, le champ des verbes d'altération, le champ des verbes de soutien. Peut-être que ça peut être des champs qu'on peut aller chercher, qui sont à mobiliser avec les élèves. Mais à chaque fois, l'idée, c'est justement d'aller vers le sens abstrait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de termes, à part dans les lexiques de spécialité, qui ne sont pas... qu'on ne mobilise pas dans un sens abstrait. Le choix des mots, il est large. Ça peut être des mots qu'on va mobiliser en mathématiques. Un exemple que des collègues m'avaient pris, c'était verser. Parce que verser, c'est vider. Mais quand on verse de l'argent sur un compte, on le vide, mais on le vide sur le compte, c'est-à-dire qu'on le met. Et donc, c'est source, par exemple, de contresens complet en résolution de problèmes. Donc, on pourrait très bien... Pour ça, c'est un dispositif qui, une fois dont on peut se saisir et qu'on peut finalement mobiliser avec les termes qu'on souhaite étudier. D'une part, discuter des verbes et d'autre part, mobiliser les fameux mots amis. Parce que vous dites consommer l'espace, donc vous le prenez bien dans un syntagme. C'est bien consommer l'espace qui veut dire quelque chose. De même, on verse de l'argent sur un compte. C'est pas comme verser de l'eau par terre. On pourrait imaginer qu'on va faire un groupe de verbes autour de consommer ou peut-être d'autres, faudrait voir avec les professeurs de géographie, et qu'on va étudier le sens de ces verbes, le sens qu'on connaît. En fait, mais attention, celui qu'on mobilise en géographie, ce sera peut-être un autre avec un autre ami. Ça implique quand même d'être bien au clair sur le sens premier, le sens que les élèves ont mobilisé, et là où on veut les emmener, c'est-à-dire un sens de spécialité dans ce syntagme-là, avec espace, consommer, ça veut dire ça en géographie. Moi, je trouve que c'est intéressant, parce que ça fait des stratégies, du coup, pour les élèves. Je pense que toutes ces propositions, elles ne sont pas exclusives les unes des autres, quoi. Et je pense que, voilà, le dispositif des mots amis, on ne va pas faire que ça. Ce qui est différent, là où ce dispositif pousse un peu plus la réflexion, c'est vraiment dans les mots amis, justement. Voilà, aller chercher les mots que je trouve autour, avec lesquels je peux combiner, qu'est-ce que je vais chercher pour réemployer et pour produire. Voilà, c'est l'entrée qui est cette dimension syntagmatique qui est un petit peu, qui est poussée comme une stratégie qu'on ne retrouve pas toujours. Mais c'est une question de décontextualisation d'une certaine façon, mais sur une échelle assez restreinte, puisque ici on parle de contexte phrastique, quoi, donc c'est assez restreint. Mais essayez de voir à quel moment on fait quoi, quand est-ce qu'on peut compléter, comment peut-être choisir dans sa période à quel moment on va utiliser tel dispositif ou tel outil. Je finis juste par la biblio, mais comme c'est illisible, mais c'est une mémoire pour moi, comme ça je la proposerai pour le Padlet. Je vous remercie.